avec le mois Carrefour, j'optimise.
Il est euphorique, Tristan.
Bah, le mois Carrefour et toutes ses super promos sur des produits de marque, ça lui donne le sourire. Par exemple, jusqu'à lundi, le pack téléphone Yazandia 5G et sa montre connectée est à 149€.
Seulement 149€ ? Le mois Carrefour m'appelle. Allô ? Allô ?
Existant noir ou blanc, 2 centimes d'éco-participation. Débit d'absorption spécifique de 0,331 watts par kilo.
Avec le mois Carrefour, j'optimise.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Marianne est à l'honneur cet après-midi chez Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Elle l'est doublement, puisque nous allons évoquer la Marianne que vous connaissez, sous les yeux de laquelle nombre d'entre vous se sont mariés, et puis l'autre Marianne, l'hebdomadaire, fondée par Jean-François Kahn et dont un numéro spécial est consacré à la République. Je suis heureux de recevoir Jean-François Kahn, ainsi que le directeur de ce numéro spécial, Éric Conant.
Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck vous répondra à la question de Brigitte et Michel sur l'origine de la présence de la devise républicaine sur la façade de certaines églises.
Je dois faire un aveu à ce micro cet après-midi. J'ai découvert ça l'année dernière en ce qui me concerne. C'est une question très intéressante et très pertinente. La liberté, l'égalité, la fraternité sont donc au cœur de l'histoire cet après-midi sur Europe.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On la reconnaît de façon instinctive sous tous ses avatars, qu'elle soit posée dignement, altière, hiératique sur la console d'une mairie, qu'elle soit crayonnée avec malice, l'air gouailleur au détour d'une caricature de journal, ou encore statufiée en féroce combattante au milieu d'une place, c'est Marianne, évidemment. D'ailleurs, toute une variété d'apparences de Marianne. Et derrière elle, évidemment, c'est un régime politique qui s'expose d'une certaine manière. C'est toute l'histoire, la longue, l'histoire mouvementée de la République. Cette évolution du régime monarchique au régime républicain, Marianne a fait plus que l'incarner passivement. On peut dire qu'elle l'a littéralement accompagnée au fil du temps. Cette allégorie a connu des transformations étonnantes. Elle s'est adaptée au contexte et aux idées de son temps. On peut dire que Marianne a beaucoup à nous dire sur les époques qu'elle a incarnées, y compris sur des époques assez récentes. D'ailleurs, alors, au tout départ, évidemment, à l'origine, il y a la Révolution française. Dès 1789, ce bouleversement politique, social, philosophique va s'accompagner d'un autre bouleversement symbolique. Je dis dès 1789 parce que les idées qui vont présider à tout ce mouvement républicain sont déjà en œuvre à l'époque, même si, vous le savez, la République, il faut attendre 1792 pour la voir apparaître et dans un instant, je vous dirai dans quelles conditions. Il y avait, et ça c'est un problème qui s'est posé à partir de 1792 justement, il y avait partout des insignes de royauté. Vous savez, on vivait dans l'ancienne France au milieu des fleurs de lys, des L qui était le monogramme des derniers rois entrelacés, des couronnes, des sceptres, etc., etc. Il y avait toutes sortes de symboles pour signifier à la fois la monarchie, bien entendu, en tant que régime, mais aussi la monarchie en tant que pays. Et ça, les révolutionnaires, évidemment, ne peuvent pas l'accepter. Ils vont peu à peu imposer leur propre symbole fondé sur des abstractions. Et ça, c'est un des paradoxes de la République, bien entendu. C'est qu'on passe de symboles qui sont relativement concrets à des symboles relativement abstraits. La justice, la raison, bien entendu, la liberté. À cette époque, précisent Maurice Agulon et Pierre Bond dans un ouvrage qu'ils ont consacré à Marianne, certaines images symboliques représentent un arbre autour duquel on danse, d'autres un joug jeté à terre et brisé. Vous avouerez que le joug brisé, il faut déjà le reconnaître, on peut pas dire que ce soit un symbole très très facile. Mais beaucoup plus souvent, ajoute-t-il, l'image est celle d'une femme drapée à l'antique et portant un bonnet phrygien. C'est la vieille tradition gréco-latine de l'allégorie, mettre des corps humains pour représenter des choses abstraites ou lointaine. N'oubliez pas l'époque dans laquelle tout cela s'inscrit, qui est une époque de fort retour à l'antique, hein, ce qu'on appelle par ailleurs dans la stylistique, ce qu'on appelle le néoclassicisme. Alors on n'a pas choisi un homme, on a choisi une femme, parce que ce qu'on cherche à représenter d'abord et avant tout, c'est un mot féminin. Alors, est-ce que le mot en question, c'est république? Est-ce que c'est liberté? Est-ce que c'est France au sens de France libérée? C'est assez difficile de le dire. Cette pré-Marianne, en quelque sorte, ne donne pas toujours le sentiment d'incarner exactement la même chose. Ce qui est certain, c'est que le bonnet dont elle se coiffe, ce bonnet phrygien, renvoie à une idée de libération, puisque dans l'Antiquité, à Rome autrefois, lorsqu'on affranchissait un esclave, généralement on lui remettait le bonnet phrygien. Donc c'est un symbole d'affranchissement, d'émancipation, ce bonnet phrygien. Alors la monarchie est en train de sombrer gentiment et de nouveaux symboles sont en train de prendre de l'importance. On peut dire que la toute jeune République, celle de 1792, essaie d'institutionnaliser ces symboles. Le 25 septembre 1792, raconte Agulon, la Convention décide que le nouveau sceau de l'État sera une figure de la liberté, c'est-à-dire une femme avec un bonnet phrygien. Vous voyez que ça ne s'est pas fait si spontanément que ça, c'est bien une décision politique, concertée, volontaire. Une image très forte que cette femme coiffée d'un bonnet phrygien, une femme qui porte beaucoup d'espoir, qui inspire une forme de dévotion quasi cultuelle. Il y a déjà des bustes de femmes au bonnet phrygien à cette époque, et notamment on en installe un très vite à la ville, dans l'hôtel de ville de Marseille en 1793. Alors, pourquoi a-t-on commencé à désigner cette figure par le prénom de Marianne? Ça, c'est une question. Ça pourrait faire l'objet d'un retour aux origines, d'ailleurs. Alors, je vais vous faire un petit retour aux origines de milieu d'émission, si je puis dire. Là, il y a plusieurs hypothèses qui coexistent. François d'Argent rappelle l'écho qu'a eu un ouvrage qui théorisait le tyrannicide. Un ouvrage écrit à la fin du XVIe siècle par un jésuite espagnol qui s'appelait Juan de Mariana. On l'appelait Jean de Marianne en France. Et ce Jean de Marianne, il était celui qui avait dit qu'il fallait tuer les tyrans d'une certaine manière. Et ce qui fait que dans les milieux royalistes à l'époque, on désignait les femmes du peuple un peu criardes, un peu les poissonnières, vous savez, on les appelait les Mariannes déjà. Mais il y a une autre explication et qui, moi, a tendance à me convaincre davantage, c'est l'explication d'Agulon et Bonte, justement, qui évoque le succès d'une chanson de 1792. Vous savez que, en France, disait Beaumarchais, tout finit par des chansons, mais j'ai presque envie de dire que les grandes notions aussi commencent par des chansons en France. La chanson en question, c'est une chanson de Guillaume Lavabre, qui était un républicain de Puy-Laurence, près de Castres. Et cette chanson racontait la guérison d'une malade dénommée Marianne. Vous voyez bien que métaphoriquement, cette guérison, c'était la jeune République en danger, assaillie de toutes parts, celle de septembre 92, qui peu à peu allait mieux, bien entendu. Et d'ailleurs, on s'était habitué dans le sud de la France, quand on disait « comment va Marianne ?», ça voulait dire « comment va le nouveau régime politique ?». Ce serait bien ça l'origine du prénom. Alors pourquoi Marianne ? En un ou deux mots, hein, d'ailleurs, c'était un prénom, il faut le dire, très populaire. Vous savez que plus des deux tiers des femmes de France au XVIIIe siècle s'appellent Marie. Alors Marie, avec des traits d'union et tous les prénoms que vous voulez, et bien sûr notamment Marie-Anne, qui était Sainte Anne, était la mère de la Vierge, bien entendu. Guillaume Lavabre a-t-il voulu faire référence à Mariamné, cette héroïne juive qui avait subi le joug d'un tyran? C'est possible, en fait on n'en sait rien, toujours est-il que c'est probablement de la chanson de Lavabre qu'est venue l'identification du nouveau régime à cette figure idéalisée d'une femme portant le bonnet phrygien et portant surtout tous les espoirs du nouveau régime.
La Marseillaise sur Europe 1, interprétée par Jessie Norman. Restez avec nous dans un instant. Franck Ferrand continue de vous parler de la République et plus précisément de Marianne.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Elle incarne la République avec son bonnet phrygien. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand nous parle de Marianne.
Alors oui, cette Marianne, je dis ça pour ceux qui seraient arrivés en route, cette Marianne a bien été voulue et décrétée par les toutes premières instances républicaines lorsqu'en septembre 92, cette première République voit le jour, entre parenthèses, une première République qui voit le jour un peu à la force, au hasard des événements. On y reviendra tout à l'heure sur ces circonstances tellement particulières d'une année 92 où tout a basculé. Alors, la première apparition de Marianne sur une pièce de monnaie, c'est très tard, hein, on est sous le Directoire en 1796, et assez vite, ce visage va être remplacé par un autre, celui du Premier Consul, celui de Napoléon Bonaparte, bien entendu. On peut dire que la République se met à ce moment-là assez vite en sommeil. Ça va être une longue apnée, puisque le consulat débouche sur l'Empire, il y a ensuite la restauration des Bourbons, hein, les deux frères de Louis XVI remontent sur le trône pendant un certain temps, puis c'est la monarchie de Juillet qui naît de la révolution de 1830 et bientôt il y aura aussi le Second Empire. Entre les deux, une sorte de parenthèse, c'est cette deuxième république où Marianne va prendre quasiment des airs littéralement de résistante. Le grand le symbole, la Marianne célèbre de l'époque, c'est bien sûr celle du tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple, cette figure allégorique avec son bonnet phrygien qu'elle assume parfaitement et qui est là sur les barricades en s'élevant contre l'oppression. La République a été rétablie en 1848, l'effigie républicaine réapparaît quasiment aussitôt. Voilà ce que nous disent Agulon et Bonte. Le gouvernement provisoire ne se contente pas de solliciter des artistes la création d'un nouveau sceau pour l'État et de nouveaux types monétaires. Il met aussi au concours la création d'une figure de la République. Un nombre considérable d'esquisses sont présentées, images de femmes chargées d'attributs symboliques empruntés au répertoire le plus conventionnel de l'allégorie. Vous verrez vendredi, parce que j'aurai l'occasion de vous raconter cette histoire-là vendredi, que c'est l'époque où l'on voit apparaître cette figure, cette allégorie féminine qu'on hésiterait presque à appeler Marianne, mais c'est bien son nom néanmoins, sur les timbres. Bien entendu, on parlera de l'histoire de la Poste à l'occasion de la fête du timbre qui va être célébrée dans 89 villes de France le week-end prochain. Alors, les divergences sont assez claires entre les républicains eux-mêmes, entre les partisans d'un certain ordre et les révolutionnaires impénitents. Cette division transparaît dans les visages qu'on donne à Marianne, ça c'est assez intéressant. Ceux qui dominent à l'époque, c'est-à-dire les plus conservateurs, ont tendance à privilégier une figure républicaine au trait doux, grave, quasiment mâle si j'ose dire, rassurant en tout cas, totalement déparé de son bonnet phrygien. C'est-à-dire que là, on a une Marianne qui est décoiffée d'une certaine manière. Et puis, plus on va à gauche, et plus le bonnet réapparaît avec une Marianne beaucoup plus emportée, évidemment. Les tenants de la République pure et dure vont employer ce nom de Marianne comme une sorte de code secret, comme un signe de reconnaissance. Il ne faut pas l'oublier, surtout à partir du moment où réapparaît la monarchie à travers le régime du Second Empire. Là où Marianne s'impose définitivement, c'est au moment de la chute du Second Empire avec Sedan en 1870. On peut noter, nous dit François d'Argent, que lorsque la République fut rétablie en 1870, entre parenthèses, c'est pas tout à fait vrai ça. Le régime impérial est déchu, mais la République, elle ne va s'installer que progressivement et elle n'est définitive qu'avec l'amendement Vallon de 1875. Mais enfin, fermons cette petite parenthèse. Au moment, en tout cas, où la République est rétablie, dit-il, 9 des membres du gouvernement provisoire étaient des francs-maçons et qui appartenaient à une loge nommée la Marianne. Ça ne s'invente pas, bien entendu. Toute la symbolique qu'avait conçue la Deuxième République est remobilisée. On refait des timbres, etc. Bien entendu, avec des débuts qui sont peut-être un peu timides. Mais néanmoins, ce symbole, cette Marianne, s'impose suffisamment pour qu'on voit se multiplier son buste dans les mairies à travers tout le pays. Ce n'est pas une pratique obligatoire, il faut bien le signaler. Mais on a enlevé le buste de l'empereur Napoléon III et à la place, on colle quand même celui de Marianne. C'est une façon pour la République qui ne s'installe que très progressivement dans toutes ses campagnes de France. C'est une manière d'imposer son symbole et d'imposer ses notions, bien entendu. Alors, Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à mesure que va avancer la Troisième République, ça c'est un des aspects qui m'ont surpris lorsque j'ai préparé cette émission, c'est de voir qu'en fait, plus la République est décriée, alors il y a d'abord son imposition dans les années au milieu de la décennie 1880, mais lorsque, au tournant des années 1900, et plus on va avancer, et alors je ne vous parle même pas du lendemain de la Première Guerre mondiale, lorsque la République est décriée, lorsque le régime perd de son lustre et de son attrait pour la population, et notamment aux yeux des journalistes, plus on va voir Marianne ridiculisée d'une certaine manière, et c'est l'époque où apparaissent toutes ces caricatures, où l'on voit Marianne dans des postures un peu, parfois un peu discutables. La caricature nous la montre parfois heureuse, triste, vieille, grosse, rageuse, embourgeoisée, maternelle, astucieuse. C'est d'ailleurs très intéressant, il y aurait en soi une conférence à faire sur les caricatures de Marianne, ce qui n'est pas tout à fait notre sujet du moment. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que Marianne, au-delà de la République, renvoie à la notion du peuple d'une façon plus générale. Et qu'assez souvent, on va se mettre maintenant à utiliser Marianne pour désigner la population elle-même. C'est la notion que retiendra Jacques Faisan, vous savez, lorsqu'il fait sa célèbre Marianne, toute fine, toute jolie, toute élégante, dans les années, à la fin des années 50 et dans les années 60, à la une du Figaro. Cette Marianne-là est une Marianne qui ne désigne pas tant la République que la population elle-même, que le peuple de France. Ce qui veut dire, somme toute, que la République s'est installée, qu'elle a triomphé. Au moment où elle perd, au moment où la République est renversée en juillet 1940, comme par hasard, on va voir ressurgir Marianne avec une nouvelle jeunesse et avec de nouveau cette capacité à cristalliser sur elle tous les espoirs.
On parle de Marianne jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr poser vos questions, apporter vos témoignages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et pour cette émission consacrée à la République, Franck, vous avez décidé de nous parler de celle qui l'incarne, Marianne, et qui a connu bien des obstacles et des combats.
Et oui, ai-je besoin de vous dire que le régime de Vichy va écarter Marianne de sa symbolique au profit d'un certain nombre d'autres insignes, et bien sûr du maréchal Pétain lui-même. Agulon et Bonte le notent. Le principal résultat de cette marianophobie est par choc en retour de donner à la République et à son image une sorte de bain de jouvence. Et c'est vrai qu'on va voir Marianne revenir en force, et tout particulièrement lorsque s'installe le gouvernement provisoire à la fin de l'été 1944, en Paris en tout cas, parce qu'il existait depuis un certain temps lui. À ce moment-là, on voit Marianne devenir un symbole qui nous rappelle ce qu'il avait pu être à certains moments de l'histoire, hein, et notamment dans les années 1790 et en 1848. Elle est, cette Marianne, elle est devenue la gardienne de la République française, elle est devenue une sorte, en quelque sorte, de symbole d'une République restaurée. C'est assez étrange qu'un symbole révolutionnaire devienne peu à peu, s'installe peu à peu, comme au contraire un symbole de stabilité. Ça, c'est assez intéressant. Elle est ardemment mobilisée quand la 4e République vit ses derniers souffles et que le général de Gaulle, en 1958, est de retour au pouvoir. Il s'agit sans doute d'affirmer une légitimité républicaine de ce nouveau pouvoir. Rappelez-vous la conférence du général de Gaulle, bien entendu, et sa réponse à Maurice Duverger sur les libertés publiques fondamentales. Elle devient aussi, disons-le, cette Marianne, de moins en moins politique. Vous savez, je vous disais tout à l'heure qu'elle avait eu tendance à devenir le symbole de la population elle-même, de la France. Eh bien, c'est ce qui se passe, évidemment. Et à la fin des années 60, lorsque l'artiste Aslan reprend les traits de Brigitte Bardot pour son buste de Marianne, alors là, on va très loin, si je puis dire, dans la dépolitisation du phénomène. François Dargent raconte, je cite, « Les supporters de Bébé, donc de Brigitte Bardot, ils sont nombreux, sont enchantés de cette initiative. Le buste est en plâtre blanc, mais certains exemplaires, celui de Malraux, par exemple, sont patinés façon terre cuite. Ravie de ce buste, la charmante actrice a demandé à Aslan de lui faire d'autres exemplaires pour en donner à ses intimes, tandis que de nombreuses communes ornent leur salle du conseil de cette nouvelle Marianne, des électeurs de l'Hexagone trouvent déplaisant de voir le portrait d'une femme peu sensible par ailleurs au lien du mariage présider en plâtre à la cérémonie capitale et solennelle de l'échange des anneaux. » En vérité, le débat est même plus vif que ça, parce que notamment à l'extrême gauche, on trouve tout à fait déplacé qu'on ait choisi Brigitte Bardot pour incarner Marianne. Marianne, ça a fait un débat. Alors, il y a eu beaucoup de symboles, de modèles de Marianne célèbres. Je pense à Michel Morgan, bien entendu. Je voyais d'ailleurs assez récemment dans une mairie un buste qui était resté, celui de Michel Morgan. Mireille Mathieu, Catherine Deneuve ou encore plus récemment Inès de la Fressange, Laetitia Casta et même l'animatrice Evelyne Thomas. On peut dire que Marianne est presque devenue un gadget municipal. C'est l'une des questions que je vais poser à mes invités dans un instant. Il n'empêche que son statut est toujours celui d'emblème de la République, qu'on le veuille ou non. Elle est devenue, pour reprendre la fameuse expression de Pierre Nora, elle est devenue en quelque sorte à elle seule un lieu de mémoire. Et si le symbole est resté très fort, je ne suis pas certain qu'aux yeux de nos compatriotes aujourd'hui, elle soit extrêmement chargée symboliquement et politiquement. Qu'est devenue Marianne ? Se poser la question, c'est peut-être se demander aussi, par voie de conséquence, qu'est devenue la République ? Bonjour messieurs, merci beaucoup d'être avec nous. Alors dans un instant, nous allons parler un petit peu de Marianne, un petit peu aussi de l'autre Marianne, c'est-à-dire du journal, et beaucoup de la République.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et c'est une émission aujourd'hui consacrée à la République et à Marianne. Franck Ferrand, vous recevez Éric Conant, journaliste à Marianne, et Jean-François Kahn, écrivain et fondateur du journal Marianne.
Il y a une question qui me brûle les lèvres, évidemment, Jean-François Kahn. C'est l'origine du nom du journal. Pourquoi avoir choisi Marianne pour nommer ce qui, à l'époque, était un nouvel hebdomadaire ?
C'était l'affirmation républicaine du journal, mais parce que mon père lisait un journal, je me souviens, d'avant-guerre qui s'appelait Marianne. C'était un journal qui avait été créé par Emmanuel Berne, et qui était un journal d'ailleurs d'un très haut niveau
oui,
intellectuel.
Bien sûr, oui.
Et donc voilà, c'était un peu par référence à ça.
Une filiation,
dans Marianne,
une double
On a mis la liberté guidant le peuple avec un drapeau bleu-blanc-rouge. Donc il y avait un drapeau bleu-blanc-rouge et Marianne. À l'époque, Quand un certain nombre de gens, pour la première fois, ont vu le titre Marianne avec drapeau bleu-blanc-rouge, écoutez bien, ils ont dit, donc vous faites un journal d'extrême droite ?
Ah oui, c'est curieux.
C'est-à-dire que...
On a inversé les symboles d'une certaine manière.
C'est pour ça aussi qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'on voulait arracher le symbole de la nation, le symbole de la République, le symbole du drapeau tricolore. On voulait l'arracher, justement, à l'extrême droite. Montrer que ça appartient absolument à tout le monde, et en particulier aux démocrates.
Ça appartient à tout le monde, mais incontestablement, c'est bien ancré dans une histoire républicaine, donc plutôt de gauche, entre nous, soit dit. Il faut quand même le souligner et le dire, ça. On parlait l'autre jour, justement, il y a 4 jours, on parlait de l'affaire du drapeau tricolore, puisque le sujet de l'émission avec Emmanuel de Varesquel était le comte de Chambord, justement. Et donc, le drapeau de droite, si je puis dire, en tout cas, le drapeau royal, c'était le drapeau blanc. Le drapeau tricolore, pendant très longtemps, était assimilé non seulement à la République, mais à une République...
Un des plus beaux, Lamartine, est l'homme qui a contribué à ce qu'on installe la Deuxième République. Hein. Il était devenu républicain. Et quand il y a eu la révolution de 1848, les manifestants sont arrivés avec des drapeaux rouges. Et ils ont voulu imposer le drapeau rouge. C'était des manifestants plutôt d'extrême-gauche. Et Lamartine a fait un discours extraordinaire. Tout n'est pas merveilleux dans Lamartine. Les poèmes de Lamartine, c'est un peu dépassé aujourd'hui. Mais il a fait un discours improvisé absolument extraordinaire pour défendre ce que c'était que le drapeau tricolore. Ce drapeau qui réunifie les volontés, qui réunifie les énergies contre le drapeau rouge, qui est le drapeau d'une faction, comme le drapeau blanc était d'une faction. Autrement dit, non à la faction rouge, non à la faction blanche, et le drapeau de tout le monde, qui est le drapeau tricolore. C'est un discours absolument magnifique.
Alors, on va venir évidemment à cette question-là qui est celle de la République. Mais avant cela, réglons la question de Marianne, si je puis dire. Là, je parle du personnage. D'où sort-il ce personnage ?
Il y a quelque chose que vous n'avez pas osé dire.
C'est vrai.
C'est qu'on ne peut pas exclure que... on ne sait pas exactement l'origine du concept du mot Marianne. Mais on ne peut pas exclure que ça a été péjoratif au départ. Que ce soit les contre-révolutionnaires, c'est-à-dire les anti-républicains, qui ont donné à l'image de la République l'idée d'une fille de joie, d'une prostituée. Ils appelaient ça la gueuse. Pour eux, la République, c'était la gueuse. Or, il se trouve que c'était le nom qu'on donnait comme ça péjorativement à souvent des prostituées, Marianne. Et il n'est pas impossible qu'ils aient donné et que du coup les républicains aient retourné en disant « Ah bien, très bien, alors on le revendique ». Et d'où la dame des Poitroyer, les seins à l'air, les cheveux au vent, que magnifie particulièrement Rude.
Rude, oui, sur la Marseillaise de Triomphe.
Rude, oui. C'est ça.
Et cette Marseillaise qui est littéralement vociférante.
Sublime.
D'une certaine façon. Est-ce que vous avez l'impression que cette Marianne et Éric Conan a encore une signification pour les Français? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est encore un véritable symbole républicain?
Oui, et d'ailleurs le mystère, c'est le fait que ça reste un symbole très consensuel. Vous ne rencontrez plus de personnes qui détestent Marianne. Et à mon avis, c'est pour une raison assez simple, c'est que vous avez beaucoup insisté sur le flou des origines de Marianne, et y compris sur l'imprécision du symbole qu'elle représente, oui. Le peuple, la population, la République.
Oui, voilà.
Mais je pense que sa force tient à cette ambivalence. Il y a d'ailleurs une notion que vous n'avez pas citée, c'est la nation aussi. Elle symbolise la nation, elle symbolise le peuple, elle symbolise la République, elle symbolise la France. Donc c'est un symbole multiple, pluriel, et je pense que ce flou permet à des gens d'origine, d'idées, d'engagement très différents de se réunir en Marianne.
Alors il y a toujours une confusion, j'ai eu l'occasion de le dire 1000 fois à ce micro, entre république et démocratie, notamment en France. Quand je dis notamment, presque exclusivement en France. C'est une confusion très, très intéressante. D'ailleurs, n'oublions jamais qu'un très grand nombre de démocraties, et notamment les 5 premières démocraties sur la liste de l'Observatoire international de la démocratie, sont des monarchies, ne l'oublions pas. La république, c'est autre chose. Et d'ailleurs, la république, elle n'a pas attendu la Révolution française pour exister, elle a existé dès l'Antiquité. Jean-François Kahn.
Oui, mais c'est tout à fait fondamental ce que vous dites. Et en effet, c'est spécifique. Normalement, il n'y a pas d'osmose entre république et démocratie. Vous avez
il y a
eu...
même des républiques dictatoriales un peu partout dans le
beaucoup.
Monde.
Hein, oui. Quand Mussolini a créé une république fasciste, enfin, il a appelé la république de Salo. Ce n'est pas parce que c'était des salauds, c'est parce que c'était dans une ville, la capitale, qui s'appelait Salo.
C'est Salo, oui.
et il a appelé ça la république de Salo. Il revendiquait l'aspect républicain. Alors, en Amérique du Sud, il y a eu plein de régimes d'extrême droite républicains, oui, voilà. etc. Inversement, la démocratie britannique, suédoise, norvégienne, c'est des monarchies. Mais il se trouve qu'en France,
et voilà.
Il y a eu osmose au départ entre l'idée républicaine et l'idée démocratique. Il n'y a qu'en France où il y a cette osmose. Mais en France, à mon avis, ça fait corps, l'idée démocratique et l'idée républicaine. Il y a eu même quelque chose, vous savez, au moment de la Révolution, ils se réclamaient de la République antique, les révolutionnaires, les républicains.
Res publica. Hein,
la res républica. En effet, il y avait eu une République romaine. Et il y avait quelqu'un qui symbolisait la République romaine. C'était Caton. C'est-à-dire Caton, c'est l'homme qui, quand Jules César a fait son coup d'État, en fait, a renversé la République. Bon, Caton, c'est lui qui a résisté, qui a combattu et qui a préféré se suicider plutôt qu'accepter la fin de la République. Or, Caton, c'était à Rome le chef de la fraction la plus réactionnaire.
Ultra-conservatrice,
oui. Ultra-conservatrice, qui refusait tout progrès social. Et le paradoxe, c'est que les révolutionnaires les plus radicaux se réclamaient de Caton, le héros de la République, qui était en vérité un réactionnaire antisocial.
Et celui qui voulait se faire devenir roi, César, bien que issu d'une très très grande famille, était lui
le chef du parti de gauche.
Voilà,
c'est-à-dire le parti exactement. Populaire et démocratique, c'était donc le chef du parti de gauche.
Alors la République, pour revenir à la France et la période moderne, évidemment, cette République, elle s'impose, elle surgit littéralement en septembre 1792, parce que la monarchie a été complètement déconsidérée. Il y a eu la fuite à Montmédy, qu'on appelle la fuite à Varennes, déjà. Donc, et il y a la menace étrangère qui pèse sur les frontières. C'est le 10 août 1792, le sac des Tuileries, et l'on va destituer le roi. On va mettre fin à une monarchie millénaire en France.
Mais en vérité, c'est les ultras de la monarchie qui font la République.
C'est ça.
À l'époque, il n'y a pas de républicain.
Par défaut.
Il y a un petit peu Condorcet qui développait cette idée républicaine, mais pratiquement, il n'y avait pas, à la Constituante, quasiment pas de républicain. Législative, il y a très peu de républicains. Et à la fête de la Fédération, il y a tout le monde avec Lafayette, etc.
Roi, etc. Oui.
Et donc, c'est une monarchie constitutionnelle. Et tout à coup, un matin, vous imaginez le roi prêter serment, il était le garant de ce nouveau cours. Du coup, ils apprennent qu'il a fui, qu'il est parti avec son entourage pour aller rejoindre au front des immigrés armés, etc. L'effondrement. Et à ce moment-là, commence à frémir un sentiment républicain. Et du même coup, ils se donnent rendez-vous, ceux qui veulent une... Enfin, ils osent à peine de dire le terme, mais qui veulent chasser le roi, disons. Hein. Ils se donnent rendez-vous au Champ de Mars, hein, pour une pétition. Et Lafayette, qui dirige la garde nationale, fait tirer sur eux.
et c'est une effusion de sang. Ils sont écrasés. Et à ce moment-là, il y a pratiquement plus de républicains. Simplement, il se trouve qu'ensuite, le roi, c'est lui qui a déclaré la guerre. Bon, il a déclaré la guerre en espérant qu'on la perde, mais enfin, c'est lui qui a déclaré la guerre. Et il se trouve...
C'est en son nom, en tout cas.
Et il se trouve que les armées prussiennes, etc., avancent vers Paris et rendent public un manifeste de leur chef qui est Brunswick. Or, qui c'est qui... Brunswick, c'est un franc-maçon. Il n'était pas un grand ennemi de la Révolution. Il était plutôt progressiste. Mais ce sont des représentants de Marie-Antoinette ou de Louis XVI qui lui mettent dans la main le fameux manifeste de Brunswick, qui lui mettent dans la main, en disant « Si vous touchez un cheveu à la famille royale, Paris va être mis à feu, à sang, on va vous massacrer. » Enfin, des choses épouvantables. Du coup, ça provoque une réaction populaire, qui prennent les Tuileries, et pour la deuxième fois, c'est les ultras de la monarchie qui ont provoqué la dynamique qui crée la République.
Mais là où ça devient incroyable, c'est qu'on va revivre un peu le même genre de circonstances en 1848, au moment de la révolution de février 48. Louis-Philippe s'arc-boute, et pourtant là on est dans une monarchie constitutionnelle, c'est le roi citoyen, etc. S'arc-boute sur un certain nombre de principes, notamment sur le suffrage censitaire, et la République, alors là il y a des républicains actifs, mais la République elle arrive là encore presque par hasard. D'ailleurs, comme par hasard, on va élire comme président de la République le neveu de Napoléon Ier.
C'est-à-dire que si, la première fois, si le roi n'avait pas trahi, parce qu'il a trahi son serment, et puis il a trahi même le pays, on serait sans doute encore, comme en Angleterre, dans une monarchie constitutionnelle. Et si Louis-Philippe, qui avait donné le droit de vote à 400 000 personnes seulement, c'est-à-dire les plus riches, avait accepté de passer de 400 000 à 900 000, comme lui demandait l'opposition, il n'aurait pas été renversé, on serait peut-être encore en monarchie constitutionnelle. Ce sont toujours les ultras d'un camp qui font le jeu des ultras de l'autre camp. Autrement dit, c'est les ultras de la droite qui font le jeu des ultras républicains.
Et de nouveau, à la chute du Second Empire en 1870, c'est ce que nous voyions il y a quelques jours, le rétablissement de la monarchie était quasiment une évidence. Et c'est encore une fois des circonstances très particulières, très ténues, très difficiles, quasi hasardeuses qui vont imposer le régime d'une république qui cette fois durera 70 ans. Ce sera la Troisième République. Alors on va venir justement, en feuilletant ce numéro spécial de Marianne, aux grandes figures républicaines, à celles qui aujourd'hui incarnent, aux yeux des Français, la République.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et jusqu'à 15h, nous parlons de la République de façon générale et de Marianne en particulier. Franck Ferrand, vous recevez Éric Conant, journaliste à Marianne, et Jean-François Kahn, écrivain et fondateur du journal. Et
j'ai entre les mains ce numéro spécial donc de Marianne, où l'on retrouve les signatures notamment de Régis Debray, Pierre-André Taguieff, Elisabeth Badinter, Jean-Pierre Chevènement, Jean-François Kahn, bien entendu. C'est un numéro spécial qui se construit comme une sorte de recueil de grands textes, Éric Conant.
Oui, l'objectif était de redonner à lire les grands textes de la République qui, vous l'avez rappelé, a une histoire longue, parce que nous nous sommes aperçus au début de l'année que 65% des Français ne savaient plus vraiment ce que voulait dire République et républicain. Ce qui est très paradoxal.
Entre nous soit dit, et sans vouloir faire de polémique, nos chers hommes politiques sont quand même en partie responsables puisqu'ils emploient ce mot à tort et à travers à longueur de phrase.
Ils l'ont fait effectivement à tort et à travers depuis plusieurs décennies. Mais ce qui est paradoxal, c'est que la valeur que mettent en avant les Français est une valeur républicaine relativement récente dans l'histoire de la République, c'est la laïcité. Les Français sont attachés à la laïcité plus qu'au suffrage universel. Mais la République, ils ne savent plus ce que cela veut dire. Bon. Donc on a oublié ce qu'a été cette histoire de la République, son émergence, les difficultés qu'elle a eu à s'imposer, les efforts que cela a coûté aux Français, au peuple français, à travers des batailles homériques avec des personnages grandioses.
Oui,
donc l'idée c'était de redonner quelques exemples des grands textes, des grandes interventions depuis la naissance de la République jusqu'à aujourd'hui.
Alors il y a les grandes consciences, si je puis dire, Montesquieu, Condorcet, etc., tous ceux qui sur lesquels se fonde une République moderne directement inspirée de la République antique d'ailleurs, et puis il y a les hommes politiques, et parmi eux deux grandes figures toujours à invoquer, je mets Gambetta état à part. Hein. Veillez, citoyens, veillez sur cette cité, dit-il dans son discours à l'hôtel de ville le 4 septembre 1870, au moment même de l'effondrement du Second Empire. Mais les grandes figures, les deux, évidemment, qui nous viennent constamment à l'esprit, c'est Jules Ferry d'un côté et Clémenceau de l'autre. Ce sont deux conceptions concurrentes, mais simultanées de la République, à une époque où la République est en train de s'installer, de s'ancrer en France.
Oui, ce sont deux acteurs républicains concurrents, mais concurrents acceptant de faire partie du même système. Ce que Jaurès dira un peu plus tard, la République, c'est ce qui permet de se diviser sans se déchirer. C'est-à-dire que les combats sont possibles à l'intérieur avec des règles du jeu définies. Les choses ne tournent pas au drame. Et l'exemple que vous prenez de Clémenceau et de Ferry est très important, puisqu'ils sont eux affrontés sur la question coloniale, puisque oui. Jules Ferry estimait que la révolution, la République devait se poursuivre outre-mer,
devait s'exporter d'une certaine manière,
et que la mission civilisatrice de la France n'était pas simplement un droit qu'il se donnait, mais un devoir, ce qu'a contesté dans un discours célèbre Clémenceau. Estimant que, et anticipant un peu sur les débats d'aujourd'hui sur la guerre des cultures, la guerre des civilisations, que ce n'était pas le rôle de la France, que un républicain devait respecter toutes les cultures outre-mer et d'abord essayer d'affermir la République française. Il était plus soucieux, lui, de l'Alsace-Lorraine que du Tonkin.
Mais c'est très intéressant, ces conceptions différentes, et qu'on retrouvera ensuite entre un Pierre Mendès France et un Charles de Gaulle, par exemple. On a l'impression que ce terme de république est un manteau qui sert à dissimuler, à cacher certaines différences foncières sur la nature du régime et sur sa vocation, Jean-François Kahn.
Dès l'origine, puisque ce sont ceux qui accélèrent le processus qui nous mène à la République en 92, c'est les Girondins.
Oui.
La République, elle est d'abord girondine.
Hein. Modérée.
Enfin, ils étaient extrémistes.
Oui,
et puis, comme ça a glissé,
oui,
comme ça a glissé vers la gauche, ils sont devenus modérés. Ça arrive souvent, ça. Et du même, mais c'est ensuite, c'est les Montagnards qui l'ont incarné. Et, le premier consul, Bonaparte, s'en est réclamé. Quand on passe à l'Empire, vous savez qu'est-ce que dit le décret et le texte du plébiscite? La République française est confiée à un empereur.
C'est quand même
on ne dit pas qu'on renverse la République. On dit que c'est toujours la République, mais qu'on la confie à un empereur. Donc évidemment, il y a des ambiguïtés possibles. Mais quand même, comme Éric Collin l'a bien remarqué, ce qui caractérise le concept français de République, vraiment, c'est d'abord la nation. C'est-à-dire que la République naît avec l'idée de nation. On se découvre, c'est la fête de la fédération un peu avant, mais on se découvre membre de quelque chose qui est la nation, qui est au-dessus des ordres, au-dessus des classes, au-dessus des intérêts. C'est la laïcité, on ne dit pas encore la laïcité, mais le fait même que l'Église, il se trouve qu'en France, l'Église s'oppose à la République. Longtemps, elle s'est opposée. Donc la République, ensuite, elle a intégré l'Église, heureusement, mais elle s'est construite d'abord contre elle. Bien mais sûr. C'est la faute de l'Église, en l'occurrence, qui s'y est opposée. Et puis l'égalité, il y a égalité, fraternité et l'égalité. Donc il y a quand même la démocratie, c'est-à-dire avant même la République, les privilèges sont interdits. C'est déjà quelque chose dans l'esprit républicain. Et donc ces idées-là, égalité, démocratie, nation, laïcité, sont quand même sont les
c'est
éléments
le socle,
fondateurs
en fait. Oui, voilà.
Hein, de l'idée républicaine. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. C'est pas ce qui définit l'idée républicaine aux États-Unis, par exemple.
Oui, et c'est ce qui est le plus frappant quand on
aux États-Unis,
lit,
c'est des religieux qui font la République.
Mais bien sûr, mais
c'est
bien
l'inverse.
Sûr. C'est assez extraordinaire de voir quand on lit tous ces textes, quand on se plonge dans cette histoire républicaine, et lorsqu'on voit le regard qu'un certain nombre de penseurs actuels et d'historiens, je pense évidemment à Mona Ouzouf, entre autres, porte aujourd'hui sur la République, de voir à quel point cette notion est complexe, elle n'est pas univoque, elle n'est pas très facile à définir. C'est presque une notion en transformation permanente. Et vous disiez, Éric Conant, qu'aux trois grandes notions habituelles de égalité, fraternité, qui d'ailleurs sont directement inspirées de la franc-maçonnerie là, du XVIIIe siècle, là, on est directement dans la mise en pratique de ces idées-là, viennent s'ajouter maintenant la laïcité, la parité aussi, qui est la plus récente de ces notions. C'est en transformation permanente.
Alors, pense même qu'on peut dire, comme le dit d'ailleurs dans un texte intéressant l'historien Claude Nicolet, oui. La République n'est pas simplement en transformation permanente, elle est en danger permanent, elle est en insécurité permanente. Parce que dans toute son histoire, il y a déjà toujours l'ancien régime qui essaye de ressusciter au sein de la République, à travers les privilèges, l'aristocratie, les castes, et on le voit bien aujourd'hui. Mise en danger aussi par l'oubli de ses principes, de sa rigueur, et puis mise en danger par, là c'est toute la question de la modernité, mise en danger par le marché, par l'Europe, par l'effacement des frontières, par toute une série de nouveaux paradigmes qui permettent à l'individu de ne plus être simplement citoyen, parce que citoyen dans la République c'est des droits mais c'est aussi des devoirs, c'est une obligation, mais être simplement un individu libre d'agir comme bon lui semble.
Merci beaucoup à tous les deux. Il y aurait beaucoup de sujets à évoquer encore. Qu'est-ce qu'être républicain aujourd'hui? C'est le sujet même de votre contribution. D'ailleurs, Jean-François Kahn, tout à fait passionnante. Je renvoie nos lecteurs à ce numéro spécial de Marianne qui s'appelle La République, à travers les textes. Oui, un mot.
Non, je dirais, il a dit quelque chose de très important. Aux États-Unis, personne ne remet plus en cause les acquis de la Révolution américaine.
Du tout.
En Angleterre, personne ne remet plus en cause les acquis de la Révolution anglaise. Alors qu'en France, en 40, a été remis totalement en cause les acquis de la République, oui, et de la Révolution. Donc en France, il y a une tendance,
un greffon qui n'est
il
pas
reste avec... toujours oui. Une tendance qui remet en cause l'idée républicaine.
Voilà, c'était le mot supplémentaire de Jean-François Kahn. Je vous renvoie donc à ce numéro spécial de Marianne.
Et dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Brigitte et Michel qui veulent en savoir plus sur une phrase marquée sur le fronton de certaines églises.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Brigitte et Michel vous ont posé cette question, Franck. Pourquoi sur le fronton de certaines églises peut-on lire République française, liberté, égalité, fraternité?
J'ai découvert ça moi-même à Argenteuil l'année dernière. Sur la basilique d'Argenteuil, vous avez liberté, égalité, fraternité. C'est quand même, comme on dit, c'est le choc des cultures, évidemment. Ça tient à beaucoup de combats entre l'église et ses municipalités. Mais l'essentiel, il y a un petit peu moins d'une centaine d'églises en France qui possèdent cette plaque liberté, égalité, fraternité. Et c'est lié à la célèbre guerre, si je puis dire, de séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il y a en 1905 un certain nombre de communes qui ont négocié, en quelque sorte, la restauration du bâtiment de l'Église lui-même contre l'inscription de la devise républicaine.